Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour le troisième volet de notre cours d'histoire consacré au siècle des révolutions. Nous sommes toujours avec Edmond Diembowski qui, je le rappelle, vient de publier aux éditions Perrin un ouvrage sur le sujet. Edmond Diembowski, bonjour.
Bonjour.
Je le rappelle, donc, vous êtes historien moderniste et spécialiste, entre autres, des relations entre la France et l'Angleterre. Un rappel, chers auditeurs, sur nos deux précédents cours d'histoire. Nous avons dû étudier un peu dans quelle mesure cette idéologie de la Révolution était née en Angleterre et comment elle avait émergé ensuite en Europe et en Amérique en étant inspiré justement du modèle anglais, mais également teinté de ces idées libérales, de ces idées du progrès qui sont si chères à la France. Notre troisième cours d'histoire, chers auditeurs, sera consacré je reprends donc le titre de la troisième partie de votre ouvrage, Edmond Diembowski, au choc des modèles, donc on va parler des années 70-80. Et avant, on va reprendre un petit peu sur la Révolution américaine. Et j'aimerais vous poser cette question. Quelle est la culture politique et idéologique qui inspire la déclaration d'indépendance du 4 juillet et de facto la Révolution américaine?
Elle est pour l'essentiel anglo-saxonne, mais elle a aussi quelques influences françaises. La culture politique des pères fondateurs des États-Unis est très largement ancrée dans ce qu'on appelle le républicanisme classique. Ce républicanisme qui a été, enfin, ces théories républicaines qui remontent déjà bien antérieurement, hein, elles sont apparues à l'époque de l'humanisme, notamment en Italie. Le principal théoricien était Machiavel en la matière. Machiavel qui insistait beaucoup sur l'importance pour le maintien d'une république et bien de l'exercice de la vertu publique, qui était pour lui la qualité fondamentale d'un républicain. Et ce républicanisme classique, ensuite, s'est répandu dans les îles britanniques, notamment au cours des deux révolutions. Et notamment, c'est ce que l'historien des idées, John Pocock, a très très bien montré en étudiant la pensée de James Harrington. Alors, James Harrington, c'est vrai qu'en France, on en parle très peu, mais c'est un penseur vraiment très très important. Harrington a écrit à l'époque de la dictature de Cromwell. Il publie en 1656 son livre « The Commonwealth of Oceania », donc la République d'Océana. En apparence, ça ressemble à une utopie, mais c'en est pas une. Oceania, cette république, c'est l'Angleterre en réalité. Et Harrington nous propose un modèle républicain idéal pour cette république d'Oceania. Une république constituée d'abord de cultivateurs, donc de paysans, de moyenne fortune. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas riches, surtout pas. Il faut surtout pas justement qu'ils deviennent riches, parce que dans ce cas-là, eh bien, avec la richesse, l'esprit civique et notamment la vertu risque de décliner. Une république de cultivateurs également, eh bien, qui constitue l'armée de cette république. Il n'y a pas d'armée de métier. C'est une armée constituée par des citoyens soldats. Alors, Harrington a une influence considérable outre-Atlantique. Il a été beaucoup lu, hein. Bernard Baylin, qui est ce grand historien américain qui a travaillé sur les origines idéologiques de la Révolution américaine, l'a très très bien montré. D'ailleurs, par parenthèse, Baylin a publié son livre en 1967, je crois. Il a été traduit en français, tenez-vous bien, en 2010 ou 2011. Bon, c'est quand même assez décalé dans le temps, mais il n'empêche que... Tant mieux, parce que c'est un ouvrage vraiment formidable. Et Harrington a été très très lu chez les colons américains. Et également deux autres théoriciens importants, hein, qui ont une influence considérable sur les pères fondateurs, c'est John Locke, bien entendu, le grand théoricien du contrat en Angleterre. notamment dans son second traité du gouvernement, hein, qui est un ouvrage vraiment fondamental sur lequel d'ailleurs je me suis appesanti dans mon livre, hein, parce que il est vraiment, c'est une sorte de théorisation de cette révolution qu'il nous propose, alors qu'il l'a écrit avant d'ailleurs la glorieuse révolution, mais c'est vraiment très très important. Et également un autre penseur nettement moins connu qui est Algernon Sidney. Sidney qui était un Whig républicain qui a été exécuté en 1683 parce qu'il avait conspiré contre Charles II. Et Sidney dont le livre est sorti à titre posthume, ce livre qui s'intitule Les discours sur le gouvernement, un ouvrage vraiment très très important où Sidney s'interroge beaucoup sur la question de la souveraineté du peuple, et notamment il insiste beaucoup là-dessus, c'est que la souveraineté populaire doit être permanente, c'est-à-dire que l'exercice de cette souveraineté ne doit jamais être totalement délégué. Le peuple doit garder le contrôle, eh bien, des personnalités qu'il a élues. La pensée de Sidney a joué un rôle considérable, je dirais, sur la révolution américaine, et on le voit notamment dans les constitutions américaines, où on voit sans cesse, eh bien, cette idée qu'il faut exercer ce contrôle en permanence. De là, l'idée d'élections très fréquentes. Dans les premières constitutions des États américains, eh bien, souvent, le législatif est élu pour un an, au maximum pour 2 ans, car il faut effectuer ce roulement pour que le peuple conserve ce contrôle. Donc il y a, vous voyez, ce socle anglo-saxon, hein, il y a d'autres penseurs aussi du 18e, bien entendu, qui ont apporté leur contribution, mais on peut dire que, vous voyez, c'est ce républicanisme classique qui a vraiment marqué ses pères fondateurs. Mais il y a aussi une influence française. On le voit très bien avec l'idée de bonheur, notamment, qui là est propre aux Lumières françaises. Il y a également cette notion clé de la séparation des pouvoirs. Et là, les pères fondateurs ont lu Montesquieu. Et Montesquieu, alors c'est assez frappant de voir que Montesquieu, qui était théoricien, voit, parce qu'il est mort depuis longtemps, mais en tout cas, Montesquieu, a eu, post-mortem, on peut dire, la réalisation, de ses vœux les plus chers par l'établissement ensuite d'institutions fondées sur la séparation des pouvoirs.
Comment la France et les Français, donc comment l'État et les Français, prennent-ils connaissance de la déclaration d'indépendance et comment ils la considèrent ?
Alors curieusement, alors ça c'est quelque chose que peu de personnes le connaissent. Curieusement, la déclaration d'indépendance, la première publication en langue française, a été totalement officielle. C'est-à-dire que ce texte a été publié dans une gazette française qui était promue par le gouvernement, par notamment le comte de Vergennes, qui était le secrétaire d'État des affaires étrangères de Louis XVI, une gazette qui s'intitulait « Les affaires de l'Angleterre et de l'Amérique ». Donc nous sommes en 1776, Vergennes pense à la guerre de revanche contre l'Angleterre, et il entend conditionner en quelque sorte les Français, leur donner une vision des affaires de l'Amérique qui soit attrayante. Et donc de ce fait, il décide de publier des textes venant d'Amérique et parfois des textes extrêmement, extrêmement subversifs, comme justement cette déclaration d'indépendance qui, tout de même, dans les principes qui sont énoncés, sont des principes qui sont contraires aux principes de base de la monarchie absolue française. Notamment, la notion de contrat rompu, notamment, cette nécessité, dans ce cas-là, de changer radicalement de forme de gouvernement. C'est tout de même très très étonnant, et je me suis longtemps posé la question, mais comment Vergennes, qui était quand même quelqu'un de très très intelligent, mais quelqu'un de très conservateur, comment se fait-il que cet homme qui est très conservateur, en matière idéologique, a permis la publication de ce type de texte? Il n'y a pas que cela. Le Sens commun, par exemple, de Thomas Paine, a été en partie publié dans la même gazette. C'est très étonnant. Je n'ai pas de réponse catégorique. Mais je pense tout de même qu'il y a sans doute deux choses. D'une part, Vergennes a sans doute considéré ses écrits, qui étaient essentiellement influencés par la pensée philosophique anglo-saxonne, avait très peu de d'atomes crochus avec la pensée française. Là, je pense que c'est sans doute il a sans doute sous-estimé les capacités de nuisance, on pourrait dire, de cette de ce corpus idéologique. Ça, je le crois. La deuxième chose également qui est toujours à prendre en ligne de compte, c'est que nous sommes en 1776, à une époque où le règne de Louis XVI vient juste de commencer, les choses se passent pour l'instant relativement correctement, c'est un règne qui semble prometteur. Bon, certes, Turgot déjà a été disgracié, mais il n'empêche que nous sommes dans la phase réformatrice du règne de Louis XVI et finalement, le pays qui paraît être au bord du précipice en 1776, c'est pas la France, c'est l'Angleterre. Et donc Vergennes, sans doute, a encore une fois sous-estimé, sans doute, les capacités, enfin du moins les potentialités idéologiques, de cette publication. Alors, ce qui est certain, c'est que ces textes sont très connus très rapidement. Et il y a eu des réactions très diverses, et notamment il y en a une qui est très intéressante, c'est celle de Diderot, qui en 1780, dans l'édition de l'Histoire des deux Indes, encore une fois un texte très peu connu aujourd'hui, mais qui à l'époque a été un véritable best-seller, hein, cette histoire de la colonisation depuis les grandes découvertes de l'abbé Raynal. Donc dans l'Histoire des deux Indes de l'abbé Raynal, ouvrage collectif, Diderot rédige de nombreux articles, de nombreux chapitres, et notamment il rédige ce chapitre consacré aux révolutions d'Amérique, et là il tire vraiment les conclusions qu'on pourrait qualifier de révolutionnaires, parce que Diderot le dit clairement, désormais, tout pouvoir, est mortel en quelque sorte. On peut, même si ce pouvoir a 1000 ans, comme il le dit, du jour au lendemain, il peut être remplacé par quelque chose de neuf.
Et alors, Vergennes et de facto Louis XVI n'auraient pas compris et n'auraient pas perçu en fait l'impact de ces idées sur les Français. Et c'est ce que vous expliquez, que pour vous, les causes en partie de la Révolution française, c'est peut-être avant tout d'avoir soutenu les révoltés américains plus que les tensions entre le roi et les parlements et le bras de fer permanent qu'on connaît et qui s'étend tout le XVIIIe siècle.
Oui, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu le bras de fer. Ça, c'est quelque chose de bien connu. Mais on a parfois tendance à sous-estimer la dimension idéologique. Or, ce que j'essaie de montrer dans ma dernière partie, c'est que il y a des connexions absolument extraordinaires entre les différents phénomènes révolutionnaires qui surgissent au même moment. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir de la Révolution d'Amérique, vous avez une Europe qui est en proie littéralement, à des soubresauts extrêmement vifs. En Irlande, par exemple, et ensuite à Genève. Alors là, pour le coup, en 1782, à Genève, Vergennes réagit d'une manière tout à fait différente. En 82, une révolution éclate à Genève, une révolution qui ne dure pas longtemps, tout simplement parce que les puissances voisines, les cantons suisses, mais aussi la France, interviennent militairement pour mettre fin à cette révolution. Mais Vergennes, sa réaction face aux événements de Genève montre une inquiétude vraiment très très marquée. Il parle de maladie contagieuse, c'est-à-dire qu'il a peur désormais que les idées traversent en quelque sorte le lac Léman, et il s'en est sans doute rendu compte un peu tard. Au même moment également, vous savez, cet esprit citoyen dont j'ai parlé dans une précédente émission, cet esprit citoyen se manifeste en France par cette grande souscription patriotique de 1782, où on voit ces Français qui brûlent de participer, de donner leur argent pour reconstruire la marine de guerre qui vient de connaître une défaite à la fin de la guerre d'indépendance américaine. Et que fait Vergennes ? Et sans doute, grave erreur de sa part, il refuse ce concours des Français, car il juge que cette expression d'une France citoyenne ressemble trop à la vie politique anglaise plutôt que ce que lui considère comme être la norme pour la France, c'est-à-dire une monarchie absolue de sujets. Et l'un des fils rouges de ma dernière partie, justement, c'est cette espèce de frustration que ressentent de plus en plus les Français au fil du temps. C'est-à-dire qu'ils souhaitent participer, mais ils voient les portes de l'autorité sans cesse se fermer. face à cette volonté de participation. Et l'on devine que en 1788, lorsque Louis XVI décide de convoquer les États généraux, ben c'est le raz-de-marée. Vous avez une quantité absolument phénoménale d'ouvrages qui inondent littéralement l'espace public, car désormais les Français ont la parole, hein, pour reprendre le titre d'un livre très célèbre. Et ces Français qui ont la parole, et bien désormais ils l'expriment, mais avec une puissance extraordinaire. Et tout était déjà en germe à l'époque de la guerre de 7 ans, et a fortiori et bien pendant la guerre d'indépendance américaine, où on a vu se manifester cet esprit citoyen.
Alors, quand on sait que les origines de la Révolution française se trouvent en Angleterre au XVIIe siècle, on a du mal à comprendre pourquoi cette espèce de dérèglement et pourquoi autant de violences qui sont apparues en France dès 1789 et qui teintent en fait cette révolution d'un aspect excessivement violent et excessivement dévastateur presque. Pourquoi en fait la France va avoir une révolution si puissante, si violente, et qui a l'air plutôt de tuer sa monarchie, alors qu'en Angleterre, elle l'a presque ressuscité, la Révolution.
Oui, en tout cas, la seconde Révolution d'Angleterre, parce que la première, bien
la
entendu,
première, oui, elle
était très sanglante également. Ben, là, c'est le concours des circonstances, parce que il y a différentes manières d'interpréter 89, mais la radicalisation de la révolution, à partir notamment de l'épisode du 14 juillet, bien entendu, cette radicalisation est en partie due à l'attitude de l'autorité, et je veux parler bien entendu de Louis XVI, qui commet l'erreur monumentale de renvoyer Necker dans un climat de tension extrême, notamment à Paris. Jamais oublier que nous sommes dans une année de crise de subsistance, une année également marquée par les tensions consécutives à la convocation des États généraux, et la nouvelle du renvoi de Necker, la nouvelle de la formation du gouvernement de Breteuil, du ministère de Breteuil, ministère conservateur, provoque un vif émoi dans la capitale, et c'est alors que en effet, l'on passe à d'une révolution qui jusqu'à présent était une révolution qui avait été menée dans les États généraux, qui se sont rebaptisés Assemblée nationale et ensuite Assemblée nationale constituante, donc révolution versaillaise on pourrait dire, à une révolution dont l'épicentre désormais est Paris, et un épicentre extrêmement vif, extrêmement violent, puisque on assiste à des scènes de violence inédites à Paris depuis l'épisode de la Fronde. C'est-à-dire que là, Paris renoue avec une conduite politique que la capitale, enfin du moins une partie de la population de la capitale avait, les ancêtres bien entendu, avaient tenu en 1648 ou encore plus antérieurement, par exemple, à l'époque de la Ligue. Donc, nous sommes là dans, je dirais pas que ça fait partie de l'ADN parisien, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a, à mon sens, le déclencheur de cette première vague de violence, a été cette décision royale qui est intervenue dans une situation de surexcitation des esprits, si vous voulez, d'exacerbation des esprits.
Donc, exacerbation des esprits, donc très localisée en France, et pourtant, la Révolution française, elle s'adresse à tout le monde, et c'est ce qu'on lit d'ailleurs dans les droits de l'homme, c'est pas uniquement les droits de l'homme français, c'est les droits de l'homme. Est-ce que c'est parce que la Révolution française se veut universaliste qu'elle est si particulière?
Oui, mais ce n'est pas la première révolution universaliste, parce que déjà la Révolution américaine l'était, avec la déclaration des droits de Virginie, ce sont des droits de l'homme. C'est-à-dire que notre déclaration du 26 août 89, s'est tout de même inspirée, en partie du moins, de la déclaration de Virginie. La différence, sans doute, c'est que notre déclaration des droits de l'homme a été formulée d'une manière plus claire, plus radicale que celle de Virginie, il y avait parfois des articles assez longs et qui auraient peut-être mérité une clarification. C'est peut-être la raison pour laquelle, notre déclaration a acquis cette dimension universaliste qui s'est imposée par rapport eh bien à ce qui avait été déjà tenté en 1776. En tout cas, c'est mon hypothèse.
Comment définit-on la révolution à partir de la Révolution française et qu'est-ce qui distingue cette définition de la définition des révolutions anglaises ?
Eh bien, à partir de la Révolution française, le terme révolution a pris le sens que nous l'entendons encore aujourd'hui, c'est-à-dire de bouleversement général, bouleversement fondamental à la fois des institutions, mais ça peut être aussi de la société, ça peut être également des structures religieuses, voire pourquoi pas aussi une révolution dont les conséquences peuvent affecter la culture. C'est-à-dire que on est passé d'une révolution à minima, d'une certaine façon, d'une révolution qui est visée à préserver les privilèges, du moins c'était l'esprit de la révolution anglaise de 1688-89, même si elle a fait du neuf, mais il n'empêche que son esprit était cet esprit restaurateur, de restauration des privilèges tels qu'ils existaient et tels qu'ils avaient été pervertis par le roi, à en 89, désormais une révolution qui est fondée sur cet idéal de bâtir un monde nouveau, ou une France nouvelle, pourquoi pas d'ailleurs ensuite un monde nouveau, puisqu'elle aura, eh bien, une aspiration également universaliste. Donc la définition a été totalement bouleversée par l'expérience de 89 et antérieurement déjà aussi par l'expérience de 1776.
Nous achevons, chers auditeurs, notre cours d'histoire consacré au siècle des révolutions. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes les émissions sur le sujet sur notre site storiavoce.com. Merci beaucoup, Edmond Diembowski.
Merci beaucoup.
Pour nous avoir expliqué avec autant de clarté cette période si riche qu'est le XVIIe et le XVIIIe siècle révolutionnaire. Je rappelle bien entendu le titre de votre ouvrage, Le siècle des révolutions 1670-1789, paru aux éditions Perrin en septembre dernier. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle série de nos cours d'histoire.